satisfaction à certains de ces nationalismes d'Europe centrale, on avait mis fin au seul empire fédéral qui avait une idée fédéraliste, l'empire austro-hongrois. On ne sait pas, et on ne le dit toujours pas, que dans l'administration monarchique de l'empire d'Autriche-Hongrie, il y avait des contingents divers, de divers peuples dans l'armée. Et un officier de l'armée autrichienne, de l'armée impériale autrichienne, devait parler la langue de ses soldats. Et ça, on ne l'a jamais dit, on n'a jamais voulu l'avouer. Mais comme cet État était à la fois une monarchie et un État catholique, il y a évidemment eu ici et dans d'autres points de l'Europe des forces idéologiques qui voulaient la destruction de cet État, de cet empire fédéral, pour le remplacer par des formations étatiques qui seraient toutes, à peu près, bâties sur le modèle français. Et c'est ce qui m'a amené, petit à petit, à la conception d'une Europe qui ne serait pas celle des États, ou pas seulement celle des États, mais qui serait aussi celle des peuples, et des peuples, pas des États. Des nations vraies, des communautés de base de l'Europe, et non pas de ces formations nouvelles historiques qui n'avaient au plus, c'était la France qui était la plus vieille, qui n'avait que 2 siècles d'existence, même pas 1 siècle et demi d'existence. Car la vraie Europe, ça n'est pas l'Europe des États. Les États, nations telles que nous les connaissons, ce n'est qu'un accident dans l'histoire. Ce qui est vrai, c'est l'Europe qui existe à la base. Nos nations, la Bretagne, nos nations, le Pays Basque, la Catalogne, la Corse, la Tchéquie, la Slovaquie, la Croatie, tout cela c'est la vraie Europe. Ce ne sont pas des formations étatiques qui voulaient tout centraliser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un peuple, une nation, un chef. Les Français disent un peuple, une nation, une langue, un État. Et c'est donc cette conception qui a, si vous voulez, donné naissance à mon livre dont vous a parlé tout à l'heure Éric Rouen, L'Europe sans drapeau. Ce livre a eu d'ailleurs peut-être plus de rayonnement en dehors de la Bretagne. Parce qu'en Bretagne, il y a toujours, en ce qui me concerne, une espèce de point d'interrogation. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en Irlande, mais qui n'auraient pas l'idée de venir me voir en Bretagne. Ça, c'est humain, peut-être, mais je ne suis pas très fréquentable, paraît-il. Ça ne m'a jamais gêné beaucoup. Mais enfin, quand même, ça existe. Et c'est pour ça que, parmi nos amis européens, beaucoup ont lu et ont apprécié l'Europe sans drapeau, peut-être plus, que nous l'ont fait certains des militants bretons qui ont toujours l'arrière-pensée de dire ben c'est foiré, attention. Ben, voilà, si vous voulez, nous en sommes encore là, parce que l'Europe, malgré tout, c'est pour nous une chance, en ce sens que c'est une formation pragmatique qui se bâtit peu à peu, mais qui inévitablement se bâtira sur des réalités. Et les réalités à l'heure actuelle, ce n'est pas seulement les États, ce sont les régions, ce sont les peuples. Et l'Europe des peuples se confond pratiquement avec l'Europe des régions. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « L'Europe sans drapeau ». Car les drapeaux des États ne sont pas suffisants dans l'Europe de demain. On me dit, bien sûr, c'est une formation, c'est une très belle idée, mais c'est un peu utopique. Mais je réponds, oui, mais attendez un peu. Et il n'y a pas si longtemps, je vous cite simplement un extrait d'un discours de M. Delors, ancien ministre des Finances français, présidentiable à la République, mais qui dirige actuellement la communauté européenne à Bruxelles, les 12, la communauté des 12, et qui s'exprime ainsi. La communauté n'existera vraiment que si les États nationaux permettent à leurs régions de dialoguer sans entrave avec l'exécutif fédéral que doit devenir tôt ou tard la Commission de Bruxelles. On s'oriente à l'heure actuelle, petit à petit et pragmatiquement, comme le désiraient d'ailleurs les fondateurs de la Communauté européenne, à la fois le chancelier Adenauer et le Lorrain Robert Schuman, vers une communauté qui petit à petit adopte et adoptera des structures fédérales. Mais c'est là où nous devons, peuple de l'Europe, intervenir. Ce ne sont pas les États historiques qui doivent construire cette Europe. Ce sont les réalités de base du continent, les communautés naturelles dont nous faisons partie et dont nous sommes les représentants. Cette vocation fédérale de l'Europe ne peut, à mon sens, que s'affirmer, et elles sont un modèle pour les Bretons. Lorsque la communauté européenne s'est fondée, il y avait surtout des États historiques et centralistes, à part l'Allemagne et l'Italie. Pourquoi ? Parce que ces deux États avaient été vaincus et que dans leur naïveté, les dirigeants français et peut-être d'autres États pensaient affaiblir en les dotant d'un régime fédéral. Or, cela a fait leur puissance, leur force et leur forte attraction. Eh bien, la France n'a pas encore réalisé cette mutation. Elle est en retard. Mais c'est dans ce sens-là aussi que les Bretons doivent travailler, car la construction d'une Europe des peuples et des régions est un complément et une finition pour leur lutte personnelle qui doit subsister et qui doit continuer à agir contre vents et marées, car les vents et les marées ne manquent pas. Et nous avons aussi des modèles. Malheureusement, ici encore, la France est en retard. Je voudrais vous lire quelques passages de Constitution. C'est un peu mon métier, puisque je suis un peu constitutionnaliste, si vous voulez. Eh bien, la France est évidemment, vous le savez bien, régie par la Constitution de 1958, car la France change aussi souvent de Constitution qu'elle le change du gouvernement, ou qu'on ne veut changer d'ailleurs le système électoral. Cela dépend bien sûr de chaque gouvernement qui cherche à en tirer parti au maximum. Eh bien, donc la dernière, parce que ce n'est probablement pas la dernière dans le temps, Constitution française, c'est la Constitution de 1958, qui dit que dans son article 1, que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. On ne parle pas de la langue. D'origine, de race ou de religion. Il y a bien une disposition dans la Constitution qui parle du droit de la libre détermination des peuples. Mais ça ne s'applique qu'aux peuples dits d'outre-mer. Ça ne s'applique pas ailleurs. À la rigueur, on pourrait penser que la Guadeloupe ou la Martinique pourraient essayer d'avoir le droit de libre détermination. Mais ils sont des départements français. Ils ne sont pas. La Guadeloupe, la Martinique, ça n'existe pas. Ils sont des départements français, la Réunion aussi. Donc, je ne crois pas que le droit de libre détermination même s'appliquerait même à eux. Il y a toutefois, dans l'article 55, le titre 6, un petit texte qui est intéressant et qui dit que les traités et les accords internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. Cela n'a pas été adopté sans difficulté. Il n'y a pas tellement longtemps, le Conseil d'État refusait encore de reconnaître cette suprématie de la loi internationale sur la loi interne. Eh bien, si je dis que la France est en retard, c'est que dans les États qui forment actuellement la communauté, le plus important, l'Allemagne, est un État fédéral. C'est-à-dire que l'État allemand, la République fédérale allemande, en réalité, le pouvoir est concentré sur les matières pratiques d'administration, de finances, dans les Länder, c'est-à-dire des États par entier qui font partie de la République fédérale. Et la plupart des pouvoirs pratiques sont exercés par ces Länder et non pas, à part les affaires étrangères, la défense, etc., par l'État fédéral lui-même. Donc l'Allemagne s'était déjà orientée, bien que ce ne soit pas tellement elle qui soit responsable, s'était orientée vers la création d'un État véritablement fédéral. Et depuis, il y a eu aussi, parce que aussi encore une fois, l'Italie a été vaincue. Enfin, l'Italie, c'est très compliqué, parce que quelqu'un a dit que les Italiens ne finissaient jamais la guerre du même côté. Alors moi qui ai changé deux fois. Voilà. Bon, mais en tout cas, le résultat est que l'Italie a aussi une constitution à base fédérale. Et la République italienne, qui est un des membres fondateurs des grands États de la communauté, se dit aussi, comme la France, une république une et indivisible. Hein? C'est inscrit dans la Constitution, article 5, mais la Constitution ajoute, elle reconnaît et favorise les autonomies locales. Elle adapte les principes et les méthodes de sa législation aux nécessités de l'autonomie et de la décentralisation. Il y a un article supplémentaire qui dit « La République protège par des mesures convenables les minorités linguistiques ». Eh bien, ça n'existe pas dans la Constitution française. Il y a donc là un argument que nous devons apporter à chaque fois que nous faisons de l'action politique internationale. Pourquoi est-ce que dans l'Europe de demain, certaines régions, certains peuples auraient droit très normalement et légalement à des libertés, à des pouvoirs que les autres peuples et les autres régions n'auront pas. Hein? Donc, à l'heure actuelle, notre politique, si vous voulez, est d'essayer d'enserrer la France, l'État français, dans un réseau d'obligations internationales. Il y a bien sûr la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a aussi des textes autres qui limitent la compétence et les droits et les pouvoirs de l'État central, de l'État tout court. Il y a le Covenant sur les droits économiques et politiques. Il y a les conventions sur les droits de l'enfant. Il y a des quantités de textes qui, normalement, doivent s'appliquer à la France, comme ils s'appliquent aux autres États de la communauté européenne et parfois même du monde entier. Mais ici encore, la France traîne les pieds. Car chaque fois que nous avons affaire dans des conférences internationales ou dans des réunions internationales aux représentants de l'État français, ils sont en général des hauts fonctionnaires ou des diplomates chargés spécialement de ce travail, la France dit « Ah mais chez nous, non, il n'y a pas de minorité. Il n'y a pas de minorité linguistique. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Hein? Ils ont tous des droits égaux. Et si on appliquait à certains des libertés comme les minorités des autres États, parce que nous n'en avons pas, je maintiens, nous n'en avons pas, eh bien, ça ferait une discrimination vis-à-vis des autres Français. C'est-à-dire qu'ils retournent l'argument dans le mauvais sens. Alors que, personnellement, et tous les Bretons, et tous les Corses, et tous les Alsaciens, et tous les Basques, disent, mais non, c'est pas vrai. Si vous voulez appliquer les mêmes droits à tout le monde, il faut savoir si ce sont des droits uniformes ou si ce sont des droits égaux. Si ce sont des droits égaux, eh bien, il tombe sous le sens que ça ne peut pas être la même chose, il ne peut pas y avoir le même droit, l'application du même droit pour un Breton qui a une langue particulière ou pour un Corse qui a une langue différente. Il faut qu'il y ait des garanties pour ces minorités linguistiques qui existent en France comme elles existent ailleurs. Mais non, ça, jusqu'ici encore, les représentants du gouvernement français vous disent toujours « Ah non, 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 ça ne s'applique pas à nous. Nous faisons une réserve sur cet article-là parce qu'on parle de minorité. Nous n'avons pas de minorité, ça n'existe pas. » C'est évidemment nier complètement un problème, résoudre le problème en le niant. Il n'y a pas de problème si on dit qu'il n'y en a pas. Évidemment. Alors voilà, il y a un obstacle là qui est à vaincre et qu'il faut que nous arrivions à vaincre. Et donc, ça ne peut se faire que par la multiplication de recours internationaux contre l'État français. Dans certains cas, j'en ai moi-même introduit un. Je n'ai pas réussi d'ailleurs parce que, pour des raisons autres, c'était un problème de droit personnel et public et privé plutôt que public. Alors voilà, si vous voulez, il y a deux aspects actuellement du combat. Évidemment, on ne donne pas à un peuple des libertés qu'il ne demande pas. On ne donne pas à une population des droits qui ne semblent pas l'intéresser puisqu'elle ne la demande pas. Bon, il y a une nécessité absolue pour les mouvements bretons, quels qu'ils soient politiques, culturels, économiques, sociaux et autres, d'affirmer leur particularisme, leur distinction, leur volonté que ces problèmes qu'ils exposent soient résolus. Ça, c'est la première chose. Et ceci dit, il ne faut jamais négliger d'appeler actuellement, avec une Europe qui petit à petit prend cette structure fédérale, il ne faut jamais négliger d'appeler à l'autorité supérieure et de forcer petit à petit la main à une administration qui ne veut pas entendre parler de la diversité qui est reconnue à d'autres peuples et à d'autres États. Depuis que la communauté européenne existe, non seulement l'Allemagne et l'Italie ont des régimes pré-fédéraux, si vous voulez, ou pré-régionalistes et pré-fédéraux. Les Italiens s'intitulent État à autonomie régionale, par exemple. Et depuis la mort de Franco, il y a aussi le passage de l'Espagne maintenant à ce système de gouvernement d'administration. En somme, le système des Länder allemands s'applique maintenant en Espagne. Il y a des communautés autonomes, basques, catalanes, andalouses. On a d'ailleurs assisté à des naissances de mouvements autonomistes et régionalistes en Espagne, alors qu'ils n'existaient pas avant, parce que justement on leur a donné la possibilité d'avoir les mêmes droits que d'autres populations du même État. J'avais jamais entendu parler de l'autonomisme andalou avant la création de l'Espagne plus ou moins fédéralisée que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça existe maintenant. Ils ont des représentants au Parlement espagnol, ils ont des représentants même au sein du Parlement européen. Et les Corses sont même aussi représentants au Parlement européen. Mais le système politique et administratif français est encore très imperméable à ce genre de choses. Et il ne l'accepte que petit à petit. Il faudra peut-être une nouvelle génération de fonctionnaires, et encore les fonctionnaires sont nourris dans le sérail et se nourrissent de leur propre tradition. Mais je crois qu'on n'y échappera pas, et c'est un espoir pour nous. Cette autonomie bretonne que nous demandons s'imposera petit à petit, naturellement si nous combattons pour l'avoir, mais aussi parce que, à l'heure actuelle, au sein des sphères supérieures de l'Europe, il y a un préjugé favorable à ce genre d'administration et de politique. Non seulement, donc, actuellement, les grands États de la communauté européenne ont un système fédéral ou préfédéral, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, mais les petits États, même comme la Belgique, viennent de se diviser pratiquement en deux États. Il y a une administration et un État flamand, il y a une administration et un État wallon. Bien, ce système-là, évidemment, qui fonctionne, il fonctionne tellement bien que on se demande qu'est-ce qu'on pourra faire pour empêcher les Allemands de devenir trop puissants, ce système-là peut aussi s'appliquer chez nous, et je crois que c'est une chose qui ne peut pas manquer d'arriver, à condition toujours que nous nous battions pour cela. Alors, je crois que j'ai un peu synthétisé quand même. Il y a combien de temps je parle là, je ne sais plus.
On va encore parler, disons 10 minutes. 5-10 minutes.
Je crois que j'ai quand même synthétisé, si vous voulez, en espèce de raccourci quand même, de ma carrière personnelle liée à ces problèmes qui m'ont toujours préoccupé, pour lesquels je me suis toujours battu. Évidemment, certains de mes amis ont dit « Ah ben oui, Fouret, tu comprends, tu aurais pu faire une carrière, une très belle carrière, dans l'administration, etc. » Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, il faut savoir si dans la vie, il y a seule une réussite conformiste, si vous voulez, qui soit souhaitable. Il faut penser aussi que la vie est faite quand même pour essayer de s'occuper de la communauté dont on fait partie et pour essayer d'améliorer son sort, son destin, sa destinée, ses aspirations. Ah, et cette défense des valeurs bretonnes me paraît toujours indispensable, car au fond, ces valeurs bretonnes rejoignent des valeurs universelles qui sont justement celles de la liberté des peuples et la nécessité de compléter les droits individuels de l'homme et du citoyen par des droits collectifs qui reconnaissent la réalité de base de notre continent, qui est celle des peuples et des nations qui en forment la base et qui seront quand même l'espoir de cette construction politique. C'est dire que le combat n'est pas terminé, et que je ne le terminerai pas moi-même, mais que j'espère que d'autres pourront le continuer. J'ai souvent parlé de ces problèmes-là à mes amis irlandais, car l'Irlande est aussi un petit pays, heureusement, qui est également très centralisé. L'Irlande est centralisée, mais comme elle n'a que 5 millions d'habitants au maximum, l'inconvénient n'est pas tellement sensible que l'Islande, qui compte 200 000 habitants ou 250 000, soit centralisée. Elle est à la mesure d'une de nos petites régions d'Europe, d'un de nos petits peuples. C'est normal qu'elle ait une structure d'État et elle n'a pas besoin d'avoir une structure intérieure qui la différencie. Il y a encore deux États dans la communauté européenne qui ont des progrès à faire. C'est la France et la Grande-Bretagne. Ce sont les deux qui restent. Et malheureusement, il se trouve que nous autres Celtes, nous sommes dans l'un ou dans l'autre. Et ça, c'est le combat qu'il faut mener, et qu'il faut mener en commun, si possible, et en s'aidant mutuellement. Et lorsque je parle de ces problèmes-là à certains de mes amis irlandais ou d'autres peuples, ils me disent, ah ben, vous êtes tout à fait de chez nous. Je dis pourquoi. Parce que nous autres Irlandais, nous sommes toujours battus à contre-courant. Tous ceux qui se sont fait un nom dans la politique, dans l'histoire, dans la littérature, dans les lettres parmi les Irlandais, sont des gens qui étaient à contre-courant. À contre-courant de leur temps et de la pensée qui était celle dominante de leur temps. Et on m'a dit, vous êtes un peu comme les saumons. Je dis comment, comme les saumons. Je sais, je connais le saumon, bien sûr, que j'en vends moi-même, de temps en temps. Ben, le saumon, vous savez, c'est un poisson royal qui vit dans l'océan, librement, mais qui ne peut se nourrir que dans l'océan, c'est-à-dire dans l'univers. Il ne peut se nourrir que dans l'océan. Mais il ne peut se reproduire qu'en eau douce. Il naît en eau douce, et il faut qu'il se reproduise en eau douce. Et les saumons remontent les rivières pour arriver chez eux. Ils sont toujours à contre-courant. Parce que il y a des tas d'obstacles à franchir. Il y a la sécheresse, quelquefois, qui tarit les rivières. Il y a quelquefois les inondations qui multiplient les cascades, qui augmentent les courants contre lesquels il faut se battre. Il faut continuer à lutter, à persévérer. Mais on finit quand même, on continue. Parce qu'on sait qu'il faut continuer. Car on veut absolument rentrer chez soi. C'est ça que j'ai essayé de faire. Merci.